30 minutes chrono, l'émission sportive de Divergence FM, c'est le samedi de 19h30 à 20h en 30 minutes chrono. Alors sommaire pour cette émission du samedi 7 décembre. Alors la chronique de la Babale Carré reviendra à la lumière de la démission de l'entraîneur du Montpellier Hérault Football Club sur ce curieux métier. Dans les sports les plus médiatisés, l'entraîneur, voire le manager à l'anglaise, passe sa vie professionnelle sur un siège éjectable. Il est souvent le seul bouc émissaire en cas de mauvais résultat. Dans les sports pro, la responsabilité du résultat sportif lui incombe. Il n'a pas le droit à l'erreur, il n'a pas le temps, il vit dans l'urgence et sert de paravent aux autres acteurs, vous savez, les joueurs et les dirigeants. L'invité, alors bonsoir.
Bonsoir.
Alors l'invité 30 minutes chrono se fera un plaisir et un honneur de recevoir comme invité le président du MUC Escrime, l'occasion de parler avec Jean-François Fontana d'un sport qui crève l'écran, vous savez, lors des championnats ou des Jeux Olympiques souvent. C'est ça, c'est le cas.
Une fois tous les 4 ans.
Voilà,
oui.
Là on vous voit bien en face dans la vitrine médiatique, mais pas trop souvent. Donc on est ravis de vous recevoir. La France doit tant à ce sport que 30 minutes se devait d'en parler. Nous essaierons d'y voir plus clair dans les assauts, les armes, hein, l'épée, le sable, le fleuret, on verra tout ça. Nous parlerons aussi de la passion, j'en suis sûr. Et peut-être pourrons-nous aussi dépoussiérer quelques idées reçues sur la pratique de ce noble art et surtout sur les escrimeurs. Et enfin, pour conclure, on fera un petit rapide survol de quelques résultats, on parlera de choses et d'autres sur l'agglomération de Montpellier. Eh bien, allons-y. Alors avant de démarrer cette chronique, juste un petit clin d'œil, puisque un grand de ce monde nous a quittés, Nelson Mandela, donc s'est éteint cette semaine. Alors on a mis une petite musique pour rappeler ça, et puis on fera une citation aussi tout à l'heure d'un escrimeur qui en parle très bien. Alors, on va faire notre petite chronique. Cela commence souvent par un communiqué entre gens de bonne compagnie. Cela se termine parfois devant les tribunaux, mais toujours en cas de mauvais résultat d'une équipe dans les sports professionnels. Il existe un fusible parfait, il s'appelle l'entraîneur. Cet homme, ou quelquefois cette femme, sert de soupape, de bouc émissaire, de défouloir des rancœurs accumulées dans le club. Les véritables coupables, eux, sont des intouchables, car s'il est facile de faire sauter le bouchon coach, on ne peut évidemment pas virer tout l'effectif, en plus qu'il est possible de rendre responsable du désastre sportif les dirigeants qui pourtant ont été chercher celui qu'ils appelaient l'homme providentiel avant de lui passer la corde au cou et de l'emmener au bûcher afin d'échapper à leurs propres erreurs. C'est ainsi, le métier est terrible. Un soir de victoire, les joueurs vous font sauter vers le ciel et le président vous embrasse presque sur la bouche. En jurant les grands dieux que vous êtes le plus performant, le plus beau des hôtes de ce bois sportif, mais la saison suivante ou quelques matchs plus tard, les mêmes joueurs se plaignent de vos méthodes et votre bon président vous trouve peu fréquentable et même infréquentable. À la suite du 7e match consécutif sans victoire du Montpellier, football club en championnat, mercredi à domicile face à Lorient, ils ont perdu 2-0, Jean Fernandez a décidé donc de démissionner de son poste d'entraîneur du MHSC. Le technicien de 59 ans, arrivé dans les rôles l'été dernier pour succéder, vous le rappelez, à René Girard, l'a confirmé lors d'une conférence de presse ce jeudi matin. Alors après 16 journées, il est vrai que Montpellier occupe une peu glorieuse 17e place de Ligue 1. Bon, ben voilà, c'est comme ça. Hein. Alors Laurent Nicolin a annoncé que Pascal Baille s'assurerait l'intérim en attendant l'arrivée du nouveau coach. Vous savez, le nouvel homme fort, celui qui va redresser tout ça sans aucun problème. Alors on parle encore de Courbis. L'ancien entraîneur de Cannes, Nice, Marseille, Lille, Sochaux, Metz et tant d'autres, donc Jean Fernandez, et ses 602 matchs sur les bancs de L1, s'en va par la petite porte de Grammont. Un de plus, au suivant, chantait Jacques Brel. Mais avec Louis Nicolin, nous sommes dans le haut en couleur. Quand il aime, c'est souvent un peu trop. Quand il vire, c'est souvent un peu trop aussi. Ainsi, Loulou, notre pagnolesque président de l'ex-Payade, disait en avril dernier de son nouvel entraîneur, je le cite, « Il y a longtemps que je voulais travailler avec Jeannot ». Sans vouloir évidemment préjuger de l'avenir, ce Jeannot sonnait déjà un peu trop. Il suffisait de demander à René, le héros renvoyé à d'autres études dans le Nord, de nous dire son sentiment sur les trous de notre vénéré président. Mais il y a un peu le même Loulou. Il y a peu le même Loulou, le père de son fils Laurent, le président délégué du Montpellier, en rajoutait une couche. Et c'est souvent là où les entraîneurs devraient le savoir, à force de l'avoir déjà entendu, voire vécu. Rien n'est plus terrible que l'épitaphe « brosse à reluire » précédant la fin de la collaboration. Loulou, le 19 octobre, affirmait sans rire. Je peux vous le dire, que ce soit parmi les dirigeants, le staff ou chez les joueurs, tout le monde est content de Fernandez. Tellement content que ce jeudi, il en a démissionné. L'émotion que suscite tant d'amour, sans doute. Le coach est donc toujours le coupable idéal dans le sportif, quand le sportif ne suit pas les espérances des décideurs. Drôle de métier, ne trouvez-vous pas, où vous signez des contrats en CDD pour une durée à durée très indéterminée. Et donc sujet à la tyrannie du résultat, frôlant parfois l'absurde, la valse des entraîneurs dans les grands sports collectifs, et même parfois dans les sports plus individuels comme les coachs au tennis, est une valse saisonnière. Souvent avant la trêve hivernale, avant d'avoir la possibilité de relooker son équipe avec l'achat de nouveaux pions. Il me semble qu'il est souvent illogique de virer l'architecte quand les malfaçons sont dues aux maçons et aux exigences du client, le tout-puissant donneur d'ordre et surtout le donneur de leçons pour les autres, rarement pour lui-même. Aujourd'hui, ce sera l'invité. Alors, de retour dans les studios de Divergence FM avec mon invité. Alors, rebonsoir.
Rebonsoir.
Alors, c'est donc que vous êtes Jean-François Fontana et vous êtes le président du MUC Escrime.
Tout à fait, depuis 5 ans.
Eh bien, on va à l'occasion de parler de votre sport, bien sûr, mais aussi de votre club. le club du MUC. Alors, votre sport, comme on le disait déjà en introduction, c'est un sport qui nous revient souvent tous les 4 ans quand il y a les Jeux Olympiques. On voit ces escrimeurs qui portent tellement haut nos couleurs et on se dit quand même quel sport. Puis après, entre les Jeux Olympiques, des fois, vous tombez un peu plus dans l'oubli. Mais je me doute que ça doit continuer quand même entre 2 médailles d'or ou 2 médailles de bronze.
Ça continue. Malheureusement, donc à Londres, effectivement, les médailles d'or et les médailles de bronze, il n'y en a pas eu beaucoup. Il y en a même eu 0. Ça a été vraiment un passage à vide. Le fait que l'escrime disparaisse, un peu comme le judo d'ailleurs, de la télévision, ça c'est des problèmes d'image. Ce sont des sports assez difficiles à faire passer parce que très technique et très rapide.
Oui, mais cependant, je suppose que vous avez pu le constater, ça passe très bien à la télévision.
Ça passe très bien, simplement ça a besoin d'un entourage, d'explications, de pédagogie qui est un peu lourd. Assez difficile. Et puis, il faut se souvenir de quelque chose qu'on ne pourra pas changer en tous les cas tant que les caméras continueront à être ce qu'elles sont, c'est-à-dire que le mouvement de la lame va plus vite que l'œil, donc ça va encore plus vite que la caméra, donc il faut faire des ralentis. Enfin, tout ça demande une logistique un peu difficile.
Voilà. Alors, les grandes nations de ce sport, outre la France, même un peu moins bien la dernière fois, mais enfin, ça reste une grande nation sport, en Europe de l'Ouest, c'est surtout l'Italie, l'Allemagne.
Alors, effectivement, il y a une tradition, la création de l'escrime en tant que sport, c'est quelque chose d'européen. Et puis, il y a eu, comme partout, la globalisation, c'est-à-dire qu'après le fait qu'il y a effectivement l'Allemagne, l'Angleterre et l'Italie qui sont les
traditionnellement.
Pays forts, traditionnellement avec la France, il y a les pays de l'Est, en particulier pour le
Pologne.
Sabre et l'épée, donc la Pologne, la Hongrie,
Russie,
quelques Bulgares,
Russie,
quelques Roumains, la Russie, bien entendu. Mmh. Et puis, plus récemment, après, les Américains se sont ouverts à l'escrime. Et puis après, il y a tous les pays qui en ont fait une décision politique, on va dire. Donc la Chine,
Cuba.
Le Japon, la Corée et Cuba, qui ont décidé un jour d'investir les sports qu'ils n'avaient pas investi jusqu'à présent.
Donc, c'est donc un sport mondial.
Actuellement, oui, c'est vraiment un sport mondial.
Alors, on va revenir, avant de reparler du sport et de ses pratiques, on va revenir au MUC, un peu, hein, donc à votre club. Alors, un peu d'histoire. Donc, le MUC l'escrime, c'est né il y a quelque temps, quand même.
Il y a 52 ans.
Ah voilà. Oui, vous voyez, vous n'êtes pas tout jeune.
Il y a une vraie histoire.
Ah, oui, pas une vraie. Et donc, vous êtes devenu président il y a 5-6 ans.
Il y a 5 ans,
Il y a 5 ans. Alors, avant vous, c'était qui le président du MUC?
Alors, avant moi, c'était Jean-François Mahé, qui lui est un président historique, puisqu'il est resté 34 ans président et qui était escrimeur aussi. Sabreur.
Ce que j'avais à dire, vous avez succédé à un mythe un peu de...
Oui, je ne pense pas que je ferai 34 ans.
Ah bah, ça serait formidable, formidable. Et ensuite, il y a ce club, c'est multidisciplinaire. L'escrime, ce n'est pas qu'une discipline.
Non, c'est trois armes, fleuret, épée, sabre, et garçon et fille.
Alors c'est ça, garçon et fille, bien sûr. Et puis, les âges.
Alors les âges, ça fait partie des sports effectivement qui peuvent se pratiquer à tout âge. Alors je sais bien qu'on dit ça un peu pour tous les sports, mais là, pour vous donner un exemple, le plus jeune cette année a 5 ans et demi, hein, c'est l'âge limite, il faut un peu de coordination bras-jambes, mais 6 ans ça, c'est tout à fait possible. Et puis on voit tout de suite le caractère du gamin quand il arrive. Et puis notre doyen a 81 ans et il pratique ça encore avec beaucoup de vigueur et de plaisir.
Eh ben dites donc, alors c'est encore mieux que Tintin, hein, c'est 7 et 77. Temps,
oui.
Là, c'est
6,80, c'est l'inflation.
Là, vous y allez fort quand même.
C'est l'inflation. Non, mais c'est un sport qui n'est pas traumatisant. Je veux dire, le rugby, le handball sont des sports qui sont assez difficiles.
Football,
le tennis maintenant à haut niveau sont des sports qui sont très durs pour les articulations. L'escrime, si on le pratique en loisir tranquillement ou en petite compétition, c'est absolument pas traumatisant.
Voilà. Vous avez d'ailleurs une équipe de seniors aussi, enfin de vétérans.
De vétérans, voilà. Dont je fais partie.
Voilà.
Oui, voilà, ça permet de voir justement qu'on peut pratiquer et faire de la compétition à tout âge.
Et puis bien sûr, puisque il vous faut qu'elle ait des maîtres d'armes,
les enseignants s'appellent les maîtres d'armes. Voilà, ça vient de la tradition militaire de l'escrime. Hein. On pourra peut-être parler
d'historique
un petit peu.
On peut en parler déjà, si vous voulez, un peu d'histoire. Alors l'histoire de l'escrime, ça a commencé, on va dire, dès le départ de l'humanité.
Hein. Je suppose que dès que deux personnes ont eu deux bâtons pour se taper dessus, ça a commencé un petit peu comme ça.
Voilà.
Et puis après, avec l'arrivée du bronze et du fer, sont apparues les premières armes. l'escrime. Et donc l'escrime, ben, il faut penser que c'était d'abord le but, c'était de tuer l'autre. Hein, donc la technique
ou
était forcément... Ou les animaux, bien sûr. Mais enfin, si on parle du duel ou du face-à-face, c'était forcément la technique était forcément rudimentaire, puisqu'il fallait être avant tout efficace. Hein, c'était toi ou moi. Ensuite, en France, et je pense que c'est pour ça que que la France a une longue tradition, c'est qu'il y a eu, avec l'arrivée de la royauté installée en France, l'installation du duel, de régler ses affaires.
Là, on est au Moyen-Âge, puis après.
Louis XII, Louis XIII, voilà, et là, donc, on a commencé à installer une technique avec des armes plus légères, où on pouvait échanger un petit peu, même si le but, effectivement, là aussi, c'était pour laver son honneur, c'était la mort de l'autre. Puis on est passé ensuite, compte tenu des dégâts, il faut penser, par exemple, que si le duel a été interdit, Louis XIII, on a des statistiques maintenant assez précises, Louis XIII avait perdu en un an 11 000 personnes. Voilà. Donc, dans ces cadres, puisque c'était les nobles, c'était quand même la force vive.
Donc, il s'est dit peut-être qu'il faudrait arrêter ces bêtises. Ou alors, du moins, la réglementer.
La réglementer. Donc, petit à petit, effectivement, on en est arrivé jusqu'au 19e siècle, au premier sens, qu'on appelait les duels au premier sens, ce qui est quand même beaucoup moins dangereux pour la vie d'autrui. Et puis, c'est devenu au 19e siècle un sport, parce que le duel a été complètement interdit. C'est resté une tradition militaire, bien sûr.
Oui, puisque c'était obligatoire dans l'armée française d'apprendre l'escrime. Voilà.
Hein. Et puis, il y a eu une cavalerie encore très longtemps, jusqu'à la guerre de 14, donc qui pratiquait le sabre. Ouais. Il y a eu aussi le mouvement féministe qui a fait que les femmes ont investi l'escrime, et ben parce que ça leur était interdit. Donc, elles ont été revendiquées ça. Donc, dès le 19e siècle, il y avait aussi des pratiquantes. Et puis, c'est devenu un sport à part entière qui s'est ouvert à tout le monde.
Dès les premiers Jeux Olympiques, en 1896, un Olympique moderne à Athènes, déjà l'escrime est présent.
Absolument, c'est présent. C'est pour ça que l'escrime est le sport le plus médaillé en France, parce qu'il est présent depuis les premières Olympiades.
Oui, puis parce qu'on a quand même eu des grands escrimeurs parmi les Français. Donc on a fait un très rapide survol de ce sport, qui naît donc de l'Antiquité, on peut dire, et qui se développe surtout, on va dire, vers la Renaissance. La Renaissance,
oui,
c'est vraiment
tout à fait. Voilà. Tout
alors,
à fait.
On a tous l'image, évidemment, des mousquetaires. Hein. Alors, d'ailleurs, la musique que j'avais mise en introduction, c'est une musique qui appartient aux Trois Mousquetaires et qui présente D'Artagnan, le jeune D'Artagnan qui arrive.
On revoit actuellement les épisodes de Zorro. Mmh. Voilà, quand on demande aux gamins un petit peu ce qui les a décidés à faire de l'escrime, c'est jamais très, très facile. Mais ça peut être aussi la guerre des étoiles avec les sabres laser.
Ah oui, puisque c'est un combat, en fait, qui pourrait ressembler
tout à
ça.
Fait.
Alors,
c'est
on va revenir plus maintenant au sport lui-même, et au sport de l'escrime. Alors, on a vu qu'il y avait trois armes. Est-ce que vous pouvez nous expliquer rapidement comment ça se déroule, un combat, un assaut, comment ça se déroule?
Alors, fleuret, épée, sabre, déjà, la différence, c'est simplement des questions de cible. Hein, l'épée est l'arme celle qui ressemble le plus à l'arme de combat, puisqu'on peut toucher partout. Hein, donc, on peut toucher à la tête et au bout du pied,
voilà,
n'importe où.
Ça.
Le fleuret, c'est une arme, au début c'était une arme d'étude, c'est-à-dire pour donner une technique, une arme et une main extrêmement précise, et puis c'est devenu une arme à part entière. On ne peut toucher que le buste.
Mais c'est pour ça qu'on porte, les escrimeurs, on revoit à la télévision, portent une sorte de maillage.
Voilà, une cuirasse avec du fil de cuivre pour pouvoir faire le contact depuis que l'électricité est venue.
Ça a dû aider quand même pour juger. Hein, ça doit
c'est les années 50, oui, bien sûr, effectivement.
Ça devait être difficile avant de savoir qui a touché en premier.
Il fallait un arbitre et quatre assesseurs, ça faisait beaucoup de monde déjà. Et effectivement, c'était pas toujours facile. Donc ça donnait lieu à plein de récriminations.
Ah, j'imagine, dans les grandes compétitions, ça
devait être quelque chose. Et les Italiens étaient extrêmement costauds. Comme vous parliez de football tout à l'heure, il était extrêmement fort pour la réclamation.
Ah, pour la Commedia dell'arte.
Et pour la Commedia dell'arte.
C'est ça. Je les vois très bien. Je les vois très
voilà.
bien.
Et puis, donc, le sabre qui reste effectivement ce qui était le sabre de cavalerie. Donc, il y a un positionnement un peu différent, une technique un peu différente. Et on peut toucher les bras, le buste et la tête.
D'accord. Alors, des grands sabreurs, il y en a eu en France pas mal. Si je dis une bêtise, vous m'arrêtez. Mais Jean-François Lamour en faisait partie.
Absolument, voilà. C'est un des plus médaillés.
Voilà. Alors, écoutez, je fais une petite parenthèse parce que j'avais mis la musique pour Nessun Dandrea. Donc, je vais citer Jean-François Lamour. Et dans l'équipe d'aujourd'hui, enfin d'hier plus exactement, l'équipe de vendredi, Jean-François Lamour l'a dit, en parlant de Mandela, il est le symbole de la défaite de l'apartheid. quelqu'un qui a réussi à donner une image moderne de son pays à travers l'organisation notamment de la Coupe du Monde de rugby en 95, dans une période très sensible qui pouvait virer à la guerre civile. Utiliser donc le sport et le rugby en particulier, c'est un sport à la fois rude où la cohésion est importante, c'était un peu pour Mandela le symbole de ce qu'il voulait faire de son pays. Alors Jean-François Lamour s'exprime très bien, je trouve, pour parler de Mandela. Puis c'est un homme qui a l'habitude de parler, Jean-François Lamour.
Oui, puis il a été ministre des Sports, bien entendu. Mais il ouvre peut-être sur quelque chose de plus large, c'est-à-dire la place du sport dans la société. Et si on en revient à l'escrime, effectivement, par rapport à l'image de Mandela, l'image de tolérance, etc., c'est comme tous les sports de combat. Il faut rappeler avant tout que l'escrime est un sport de combat. Hein, on le met jamais, c'est toujours le karaté, etc. Mais l'escrime, c'est un sport de combat aussi, avec un accessoire comme les sabres japonais ou le bâton, etc. Ou la canne française, qui est aussi quelque chose de traditionnel. C'est un sport où on affronte quelqu'un, donc on est seul. Hein, c'est un sport individuel, même s'il y a des épreuves par équipe.
Mais pendant la durée, c'est individuel.
On est toujours seul face à un adversaire. Et ça, c'est un sport avec des règles. Et donc, on a en même temps à battre son adversaire, mais en même temps à respecter ses règles et à respecter l'adversaire. Ce sont des notions importantes.
C'est l'éthique du sport de combat.
Et puis apprendre à gagner et à perdre, ça c'est important aussi.
Et puis apprendre à perdre dans la dignité. Moi je trouve assez, quand on voit les combats des escrimeurs, je trouve qu'il y a beaucoup de dignité.
Ben, c'est le fair play. D'une part, réglementairement, on est obligé de saluer et de serrer la main de son adversaire. Donc déjà, ça calme même quand on a perdu et qu'on n'est pas content parce que personne n'est content de perdre. Mais ça permet de garder effectivement un niveau de relation avec ses adversaires qui donne un petit peu toute sa valeur à ce sport.
Donc vous donnez envie avec vos propos d'aller voir d'un peu plus près donc ce sport. Alors pour Montpellier, c'est pas compliqué, le plus simple c'est d'aller sur votre site.
Oui, je pense. Absolument. Et puis vous avez le deuxième handicap de l'escrime, on parlait de l'absence de médiatisation, mais c'est qu'effectivement, il n'y a pas beaucoup de public, dans la mesure où on en parle très très peu. Oui. Mais on a régulièrement, à la salle Pitot, puisqu'on est à Montpellier ici, des compétitions. On peut venir voir un petit peu les jeunes.
C'est la salle Pitot, donc c'est à côté du tribunal.
À côté de la piscine Pitot, à côté des arceaux. Et quand je dis des compétitions à tout niveau, il y a par exemple ce dimanche une compétition de loisirs, c'est-à-dire qu'il y aura des débutants qui vont venir faire une compétition parce qu'ils ont envie de s'affronter.
C'est à quelle heure?
C'est à partir de 9h.
D'accord. Donc dès le matin
Dès le matin, on tire au sort, c'est par équipe de deux. Alors c'est une formule qui n'est absolument pas réglementaire, mais ça permet à tout le monde de s'affronter.
Et puis de voir un peu.
Et c'est une très bonne humeur, ressemble. Et puis après, on aura par exemple au mois de janvier un tournoi qui s'appelle un tournoi interzone, c'est-à-dire là, c'est les juniors déjà qui sont des compétiteurs confirmés, qui viendront, disons, entre Nantes-Bordeaux et Nice, s'affronter pour un classement national.
Eh bien, écoutez, c'est très bien. Et vous avez dans votre équipe, même des gens qui sont vraiment d'un très bon niveau. Hein,
oui, alors ça, on n'en a peut-être pas beaucoup de temps, ce qui est la complexité maintenant, c'est que l'escrime n'est pas un sport professionnel et que pour aider des compétiteurs pour un club, quand ils deviennent de haut niveau, c'est un peu difficile.
Voilà. Alors on va se quitter un petit moment, puis après on revient pour conclure.
Le lancer du CD. Thank you.
Alors de retour dans nos studios avec Jean-François Fontana, le président du MUC Escrime. Alors il nous a choisi une petite musique comme je m'en souviens en invité. Alors d'abord de qui s'agit-il si les gens ne connaissent pas ?
Il s'agit de Django Reinhardt.
Alors l'escrime ça swing alors en fait. Hein.
Alors ça swing, oui, je pensais à Django Reinhardt, je pensais en écoutant ça effectivement. Bon d'une part ça c'est un goût personnel parce que je pense que dans le top 10 des guitaristes il en fait partie pour son inventivité. Et surtout, si on revient au sport, c'est un exemple de volonté et de ténacité, puisque l'accident, l'incendie qui lui a détruit la main droite quasiment à 70%, il a fallu qu'il se rééduque complètement. Et on vient d'entendre que, ma foi, le résultat était important.
Oui. Bon,
si on revient au sport, c'est ça. On s'entraîne et on s'entraîne toujours encore.
Et on s'entraide aussi hein, entre les sportifs, on espère,
bien
on
entendu.
Espère, et puis dans un club comme le vôtre, certainement. Il y avait un côté aussi un peu, un petit animal qui se promène, une guêpe,
le raflé fressel.
Hein, ça faisait un peu le raflé fressel.
C'est sûrement effectivement l'escrimeuse que les gens connaissent le mieux.
D'abord parce qu'elle était fantastique.
Absolument.
Et puis ensuite, elle avait un charisme, une façon de s'exprimer.
Oui, elle a beaucoup aidé l'escrime par son image.
La promotion donc, de
tout
ce sport.
Fait, oui.
On va revenir maintenant un peu à Montpellier, au MUC. Alors, ce club, il vit bien ? Il vit comment ?
Alors, ce club vit bien. Bon, d'une part, il y a 52 ans, il y a une vraie histoire. Il y a eu très longtemps deux salles d'escrime à Montpellier. Je pense qu'on peut citer le Maître Réan. Ça a été une vieille salle de Montpellier dont les deux enfants ont été aussi des bons escrimeurs et des champions. Cette salle est terminée. Donc depuis 52 ans, c'est un club qui a 300-310 adhérents par an, bon an mal an.
Donc
c'est le plus gros club de la région, surtout épais et fleuré, assez peu de sabreurs. Il y a maintenant une petite salle à Juvignac qui s'est spécialisée dans le sabre. Et ma foi, encore une fois, on reçoit les enfants à partir de 6 ans.
Et tout le monde sera bienvenu s'il vous contacte. Alors, on va se quitter parce qu'il y a des impératifs horaires dans les radios. On aurait bien continué à discuter pendant encore longtemps de ce sport. Donc, on va se quitter rapidement sur quelques résultats. On va voir ça. Là.
Quelques résultats de nos surdoués valeureux de l'aglo multivitaminé.
Alors en fait, de résultats, je ne vais pas vraiment vous en donner, je vais plutôt vous dire quelques endroits où on peut aller voir des sportifs de l'aglo. Alors, je parle souvent des basketteuses, les basketteuses du BLMA, elles reçoivent Bourges. Alors, donc là, c'est vraiment le sommet du basket, c'est la Ligue féminine. Et le coup d'envoi, c'est juste après cette émission, à 20h, alors c'est au Palais des Sports de Latte. Au waterpolo, on est très doué aussi pour le waterpolo dans notre cité. On a, n'est-ce pas, monsieur, on a beaucoup de sports où on brille quand même à Montpellier. Hein.
Eh bien, le MUC Escrime fait partie du MUC Omnisports. Il y a déjà 29 disciplines uniquement au MUC Omnisports.
Et donc c'est formidable, on a vraiment une palette pour les gens qui veulent faire du sport à Montpellier qui est assez exceptionnelle. Alors les waterpolo, les Montpelliérains, leaders pour le moment du championnat, ils se déplacent pas très loin, ils vont chez nos voisins de 7, là. Vous voyez, c'est pas très loin, et le coup d'envoi c'est presque maintenant, c'est à 20h15. Et bien voilà, nous avons fait le tour de cette émission de 30 minutes, et encore une fois merci d'être venu.
Merci à vous.
Et puis à la semaine prochaine. Alors la semaine prochaine, on va recevoir aussi quelqu'un du MUC, mais on va recevoir les gens qui font de l'aviron.
Oui, bonne discipline aussi.
Voilà, donc on en parlera la semaine prochaine. Au revoir et à bientôt. L'émission sportive de Divergence FM, c'est le samedi de 19h30 à 20h en 30 minutes chrono.